chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la deuxième partie concernant la démonologie. Je ne suis pas très sûr si ce n'est pas la troisième partie, mais ça c'est le pasteur S. Reichenbach qui peut le confirmer sur Internet. Vous pouvez consulter Internet parce que je n'ai pas Internet et normalement ils doivent être sur Internet, démonologie, partie, première partie, deuxième partie, et peut-être que c'est la troisième partie parce qu'il y a un moment de cela. Et j'ai reçu dans le cœur de faire un complément. Mais vous savez, à plus de 3000 CD, je ne me souviens pas exactement tout ce que dans In the Einzelheit, dans, je ne sais pas comment il faut dire ça, alors je ne me rappelle pas exactement. Je ne veux pas prendre l'excuse de mon âge de 90 ans. On n'a pas le droit de faire ça. Bon, alors donc, aujourd'hui, nous avons donc l'étude numéro 4 et le titre pourrait être « Les blessures démoniaques ». La première caractéristique de toute blessure démoniaque est l'incapacité de la personne blessée de reconnaître la cause démoniaque de la blessure. La première action des démons est de tenter d'aveugler la personne sur le fait qu'elle a affaire à des démons. Tant que la personne blessée ne reconnaît pas que les démons constituent la cause première de la blessure, elle ne leur résistera pas et ne les expulsera pas puisqu'elle ne sait pas. Cela permet donc aux démons de continuer à provoquer impunément leurs dommages. Veuillez s'il vous plaît noter Saint-Luc chapitre 10 verset 30 à 34 où il est dit que Jésus reprit la parole et il dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Ils le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Mais voilà, un Samaritain qui voyageait était venu là. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Là, il l'a conduit à une hôtellerie et il prit vraiment soin de lui. Saint-Luc chapitre 10, versets 30 à 34, j'ai pris cela dans ma version allemande, mais c'est à peu près pareil chez vous. À présent, notez encore Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ces deux passages de l'Écriture sainte nous montrent comment traiter les blessures causées par les démons. Le Seigneur indique très clairement dans ces passages qu'il faut verser de l'huile sur la blessure et prononcer la prière de la foi au nom de Jésus. Cependant, trop de personnes négligent le fait suivant. Si la personne blessée ou malade n'a pas confessé certains péchés, ou les pratiquent encore activement, il est nécessaire de régler ce problème en même temps, sinon la guérison ne se produira pas. Il y a des personnes un peu plus légères, je ne sais pas comment il faut dire ça, ou un peu moins, j'aime pas le mot, moins sérieuse, mais c'est pas le bon mot, qui imposent les mains et puis qui font l'onction d'huile, même sur des personnes qui n'ont pas du tout demandé pardon de leur péché. Mais je ne veux pas rentrer en dilemme à tout cela, je fais la guerre à personne. Mais en général, selon le critère spécifique de la Sainte Parole, si la personne blessée ou malade n'a pas confessé certains péchés ou les péchés, ou même les pratiquerait encore activement, évidemment il est nécessaire de régler ce problème. J'ai souvent moi-même vérifié par expérience que si quelqu'un, après avoir quitté le satanisme, est fréquemment blessé, c'est parce que les démons ont encore un doigt légal de l'affliger. Cette personne ne sait peut-être pas toujours de quoi il s'agit, mais si elle demande au Seigneur de lui révéler cela, il est toujours le Seigneur fidèle pour le faire. Parfois, quelqu'un peut être blessé simplement parce qu'il ou elle oublie de demander chaque jour au Seigneur de le recouvrir de son armure complète. Jamais je ne soulignerai assez l'importance de l'armure de Dieu. Voyez-vous, il y a quatre principales sortes de blessures démoniaques. Il y a les blessures physiques directes, les empoisonnements, les implants et les maladies. Je me suis rendu compte que l'huile d'olive pure est inoffensive, surtout lorsqu'elle est appliquée sur des coupures ou des brûlures ouvertes. Je l'ai souvent utilisée dans de semblables occasions. Dans la parabole du bon samaritain, l'alcool contenu dans le vin a permis de nettoyer la blessure. Et l'huile a été utilisée pour la guérir. On peut faire d'abord une onction d'huile, puis on nettoie la blessure avec un antiseptique quelconque, aujourd'hui on en a à profusion, et on appliquera ensuite une crème cicatrisante, ça existe, que vous pouvez avoir sous la main et de bander ensuite la blessure. Voici un autre exemple. Un homme que j'appellerais Sam, il était expert en arts martiaux, et cela avant d'accepter Jésus-Christ. Après être venu à Christ, il a travaillé un après-midi à la pelouse de son pasteur. Le démon qui était auparavant son esprit guide lui apparut et le menaça de le tuer, surtout s'il ne renonçait pas à Jésus-Christ pour retourner au service de Satan, évidemment. Sam, on l'avait appelé ainsi, était un très jeune converti. Au lieu de résister simplement au démon et de lui de commander de partir au nom de Jésus-Christ, il lui dit à peu près cela. Pas question de cela. Décampe, ce qui veut dire aussi en français full camp. Le démon, vif comme l'éclair, le griffa profondément au cuir chevelu, lui laissant ainsi trois entailles jusqu'à l'os, sur toute la longueur de la tête. Sam perdit connaissance et tomba à terre. Or le Saint-Esprit prévient le pasteur de Sam et il lui dit que Sam avait des difficultés. Alors le pasteur sortit et il le trouva étendu au sol, évanoui et baignant dans son sang. Le pasteur prit donc Sam et l'amena dans un hôpital proche, où les trois lacérations sur son cuir chevelu furent fermées avec des points. Cependant, la douleur, elle ne diminua pas. Bien au contraire, elle continua à augmenter tout au long de ses jours suivants. Et le pasteur avait fait une onction d'huile à Sam, mais il avait eu peur de verser de l'huile sur les lacérations à cause des points, évidemment. Alors, une sœur a pris de l'huile d'olive et l'a déversée sur les trois lacérations en les recouvrant complètement d'huile. Elle avait été inspirée, cette sœur. En même temps, elle a chassé les démons et elle a prié. Et en quelques secondes, la douleur de Sam, qu'il ressentait dans sa tête, disparut. Nous utilisons simplement de la gaze propre pour essuyer l'huile versée sur les poings et nous avons laissé les lacérations à l'air libre comme ils avaient fait à l'hôpital. Ainsi, la guérison des blessures suivit son cours normal. Oui, chers amis, faites aussi attention, par exemple, à des morsures d'insectes inhabituelles. Les démons peuvent se servir d'araignées ou d'insectes semblables, mais ils ne font pas cela très fréquemment. Mais si vous pensez qu'un démon peut être associé à la piqûre d'un insecte, ça arrive. Couvrez simplement la piqûre d'huile et commandez au démon de partir. Les piqûres d'insectes utilisées par des démons produisent toujours une réaction et une inflammation bien plus grave que celle qui aurait été causée par une piqûre d'insecte normale. Un autre exemple de blessure démoniaque très commun, c'est une blessure physique dont la personne ne se rappelle plus l'origine. Il arrive assez souvent à chacun de nous d'éprouver une grande faiblesse ou d'être malade. Quand cela se produit, eh bien nous essayons en général de voir si nous n'avons pas une blessure quelconque. Il s'agit fréquemment d'une coupure assez importante sur une partie de notre corps, mais nous n'avons gardé aucun souvenir du moment où nous avons reçu cette coupure. En principe, une blessure de ce type doit provoquer une douleur suffisamment forte pour que nous puissions nous rappeler à quelle occasion nous l'avons reçue. Ces blessures doivent également être ointes d'huile. Quant aux empoisonnements, voyez-vous, presque dès l'origine des temps, c'est vieux, hein, l'utilisation de poisons a été une méthode très fréquemment employée pour faire du mal à un ennemi. Ceci est certainement vrai pour tous ceux qui sont dans le satanisme. Cependant, les poisons utilisés par ces derniers sont tous mélangés à des démons et à des puissances démoniaques. Il faut donc, dans ce cas-là, traiter deux choses en même temps, c'est-à-dire le poison physique et les démons. Certaines substances communément proposées dont la plupart des boutiques d'articles occultes, je dis bien, ne sont pas très toxiques par elles-mêmes, mais elles peuvent être mortelles lorsqu'elles sont associées à des incantations spéciales. D'autres substances sont particulièrement dangereuses et doivent être commandées sous le manteau, comme on dit, dans ces mêmes boutiques ou auprès de fournisseurs spécialisés dans les produits occultes. Voici certaines substances utilisées le plus souvent dans des poisons ou dans des potions occultes. Il y a l'huile Ova Ursi, la racine de valériane, l'huile de verveine, la férula sambule, une plante homélifère, la mandragore, la potentille, le mercure, le navet du diable, la spigelia marilandka, le cyanure, la ciguë, le curare, et je crois que c'est à peu près tout. Malheureusement, à mesure que progressent la science et la technologie, la sorcellerie profite de tous ces progrès. L'un des exemples les plus significatifs, c'est celui de l'utilisation du DMSO. Le DMSO est l'abréviation du diméthylsulfoxide. C'est un produit chimique qui a été mis au point tout d'abord pour le traitement des cheveux. Il s'agit donc d'un excellent agent anti-inflammatoire utilisé pour masser les ligaments fragiles, les articulations enflammées, etc. En 1988, ce produit a finalement été officiellement autorisé pour l'usage médical. Le DMSO possède donc une propriété qui le rend particulièrement précieux pour les occultistes et pour les drogués. Ce produit peut être absorbé par la peau et peut pénétrer dans le sang en l'espace d'une vingtaine de secondes. Ainsi, on peut mélanger presque n'importe quelle substance avec du DMSO pour qu'elle soit aussi absorbée par la peau et qu'elle pénètre dans le sang en une vingtaine de secondes. Les occultistes aiment beaucoup mélanger leurs divers poisons à du DMSO. La malheureuse victime qui reçoit ce produit sur la peau a très vite de très sérieux ennuis. On trouve facilement le DMSO dans n'importe quel magasin de produits à usage vétérinaire. Les poisons et le DMSO sont fréquemment mêlés à de la gomme arabique pour qu'ils puissent plus facilement coller à la peau et ainsi être plus difficile à enlever. Faites surtout attention si vous pensez qu'un poison a été placé sur un objet que vous pouvez facilement toucher. Utilisez des gants de caoutchouc pour déplacer cet objet et enlever le poison en lavant l'objet. Si vous avez touché de vos mains quelque chose qui contient du DMSO, lavez-vous doucement à grande eau, puis nettoyez-vous avec du savon. Si vous frottez énergiquement, l'endroit où se trouve du DMSO, cela va former des cloques sur votre peau, et cela facilitera au contraire l'absorption du produit. Vous pourrez reconnaître si vous avez été en contact avec du DMSO à l'odeur particulière que vous sentirez et qui ressemble à celle des huîtres ou du poisson. Cette odeur, elle est produite dans vos narines par le produit lorsqu'il a été absorbé par votre peau et qui circule dans votre sang. Souvent, vous aurez également l'impression de goûter du poisson. Certains poissons sont aussi employés sous forme de poudre et peuvent être placés sur du papier. Oui, je dis bien des poisons, vous l'avez compris, pas poissons. Certains poisons sont donc employés sous forme de poudre et peuvent être placés sur du papier ou sur du papier gommé et des étiquettes. Ces poisons peuvent être absorbés par la peau lorsque vous touchez ces papiers ou elles peuvent pénétrer dans votre corps quand vous léchez les étiquettes, etc. Il y a eu des cas d'enfants empoisonnés avec du LSD qui avaient été placés sur des papiers gommés qu'ils avaient léchés pour les coller sur leur cahier ou sur des timbres. Ceux d'entre nous qui se trouvent engagés dans de tels ministères doivent toujours être attentifs à la direction du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit seul peut nous alerter de tels dangers. Un trait commun à tous les empoisonnements occultes est que les symptômes de la maladie se manifestent le jour même où l'empoisonnement s'est produit. Ce sont par exemple d'intenses migraines, des douleurs musculaires, de la fièvre, une grande faiblesse, etc. En outre, la situation empire fréquemment avec le coucher du soleil, au moment où les démons deviennent beaucoup plus actifs, c'est-à-dire au crépuscule, ou tout au long de la nuit. Certaines des incantations les plus puissantes utilisées pour les empoisonnements se trouvent dans des ouvrages appelés les grimoires. Les grimoires sont de très anciens livres écrits par des alchimistes du Moyen Âge en Europe. C'était des hommes de grande science qui ont fait toutes sortes de choses dont je ne veux pas vous les citer. En réalité, il s'agissait de sorciers très, très puissants. On peut encore se procurer ces écrits aujourd'hui à très grand prix. Mais ce sont des ouvrages qui circulent strictement sous le manteau, donc interdits. Avant de boire quelque chose, même de l'eau ou de manger, on devrait toujours demander au Seigneur de purifier ce que nous buvons et ce que nous mangeons, de le sanctifier. Et j'ai honte de vous dire, je ne le fais pas toujours. Je dis que j'ai honte de ne pas le faire toujours. Selon 1 Timothée, chapitre 4, verset 5, ainsi que la promesse de Saint Marc, chapitre 16, verset 17 et 18, cela s'est accompli de nombreuses fois dans ma propre vie. Veuillez bien noter ce que je viens de vous citer. 1 Timothée 4, verset 5 et Saint Marc, chapitre 16, verset 17 et 18. Dans les empoisonnements purement démoniaques, la victime peut très souvent éprouver une sensation de brûlure ou des picotements dans le bras, tout de suite après avoir touché le poison de ses mains, ou après s'être planté dans la main quelque chose qui ressemble à une écharde. Vous devez immédiatement vous oindre d'huile pour empêcher la puissance démoniaque de se répandre dans tout le reste du corps. J'ai appris cette leçon à mes dépens. Vous devez appliquer l'huile tout autour de votre bras, au-dessus de la zone déjà contaminée, par la puissance démoniaque, puis faire descendre les démons le long du bras et de les chasser par l'extrémité des doigts. Si la victime est seule et n'a personne pour l'aider, elle devra tout d'abord entourer entièrement son bras d'huile, comme précisément, et puis ensuite laver soigneusement la zone contaminée pour enlever tout poison physique ou enlever l'écharde ou l'implant. Et enfin, faire descendre et chasser les démons par l'extrémité des doigts en soignant entièrement en oignant entièrement le bras d'huile. Donc, vraiment verser de l'huile sur le bras. J'espère que j'ai expliqué cela suffisamment clairement. J'espère. Maintenant, au sujet des implants. Oh là là! Ah, ça c'est un domaine terrible. Du reste, dans plusieurs pays, déjà des millions de personnes ont déjà une puce miniaturisée comme implant dans la main, pas sur la main, mais dans la main, qui leur permet de faire certaines choses, même des centaines de choses incroyables. Et c'est déjà ce que l'Antéchrist, le système d'Antéchrist, va utiliser sur une échelle mondiale. Donc les temps des prophéties bibliques s'approchent de plus en plus. Et j'ajoute rapidement. Les implants sont toutes sortes de menus objets qui peuvent être implantés sous la peau ou dans le corps et auxquels sont attachés un démon ou parfois des poisons physiques. Les plus fréquents sont le cyanure ou le mercure. Non seulement il est impossible de purifier entièrement une personne des démons qui sont en elle, si ces implants sont toujours présents dans le corps. Mais les démons associés à ces implants provoquent souvent de l'amnésie. La personne sera souvent absolument incapable de se rappeler combien d'implants se trouvent dans son corps ou à quel rite important elle a participé. En étudiant les autres cultures dans le monde, vous trouverez partout l'utilisation d'implants. Par exemple, les femmes hindoues en Inde portent fréquemment une pierre particulière qui est implantée sous leur peau, au milieu du front. C'est l'endroit où se trouve le troisième œil. Cette pierre les relie carrément à leur dieu. Elle est donc censée leur donner une vision spéciale dans le monde spirituel. Diverses tribus africaines sont bien connues pour leur habitude d'introduire des morceaux d'os dans leur nez, dans leurs oreilles ou même dans leurs lèvres. Je pense que ce n'est pas un hasard si les groupes homosexuels ont popularisé l'usage des anneaux d'oreilles pour les hommes. Quel effet, oui, quel effet peut produire le placement de tels anneaux d'oreilles sur un jeune homme qui serait par exemple pas homosexuel? Moi, je serais très préoccupé par cette question, surtout si j'étais un jeune homme. Évidemment, avec mes 90 ans, hein. Je ne dis pas que tous les bijoux sont démoniaques. Ne faisons pas une phobie là-dessus. Cependant, certains bijoux le sont. En tant que chrétiens, nous devons beaucoup prier pour toutes les choses que nous faisons. Il existe au moins 7 catégories d'implants. il y a les épingles magiques, les épingles maudites, les implants d'ongles, et oui, la toile de Satan, les cristaux, les contraceptifs démoniaques, les implants dentaires et les échardes. Les implants d'ongles sont essentiellement les mêmes que les épingles magiques. Ils sont implantés à la racine des ongles, des mains ou des pieds, le plus souvent des mains. Ils remplissent les mêmes fonctions que les épingles magiques. Quant à la toile de Satan, elle est c'est un petit morceau de tissu très très fin, d'aspect soyeux, d'environ 4 à 6 cm sur 9. Il est avalé au cours d'une cérémonie rituelle. Et cette toile est une sorte de bombe à retardement, attention, qui se déclenche si la personne se détournerait par exemple de Satan. Alors elle produit un puissant acide dans l'estomac qui finit par détruire complètement l'estomac. Cet acide produit toutes sortes de violentes douleurs d'estomac et même des saignements, mais l'examen médical ne révèle que très peu de choses, car le processus est entièrement démoniaque. Il faut donc renoncer de manière spécifique à cette toile de Satan, et la personne doit demander au Seigneur de l'enlever complètement. Ceci fait, les symptômes vont disparaître. Les cristaux sont également extrêmement petits et sont en réalité des parasites démoniaques. Bien qu'ils aient une nature cristalline, eh bien, ce sont des réels parasites vivants. Cela a été observé au microscope. Ils sont en général implantés derrière le tympan ou dans le sang ou encore tout simplement sous la peau. Ils ont environ la taille de 1 à 3 grains de sel. C'est très petit. Certains sont rouges, d'autres blancs. Dans le satanisme, les cristaux rouges sont fréquemment appelés les cristaux rouges du diable. Si une femme met au monde un enfant sur un autel satanique ou en présence d'autres satanistes, eh bien ces cristaux sont souvent introduits dans l'artère et dans les veines du cordon ombilical du bébé. Lorsque le cordon est coupé, le bébé et la mère se trouvent alors tous les deux placés sous l'influence démoniaque de ces cristaux. Il est impossible de libérer complètement quelqu'un de ces démons-là, tandis que cette personne n'a pas renoncé de manière spécifique à ces cristaux et prié surtout le Seigneur de les enlever. Si possible, voyez-vous, ces cristaux devrait être enlevé par une intervention chirurgicale. Ils sont donc capables de produire de terribles maladies et même la mort dans les 4 ou 5 mois qui suivent leur implantation. Les implants dentaires, ça c'est encore autre chose. Eh bien, il y a des implants dentaires qui peuvent être fréquents chez les satanistes de haut rang. Ce sont en réalité des puces électroniques qui peuvent littéralement être suivies par satellite. Ainsi, tant que ces puces ne sont pas enlevées, la personne peut être repérée n'importe où dans le monde. Sa position peut être connue à tout moment. Un modèle légèrement différent de ces puces est actuellement mis à la disposition de la population des États-Unis et d'autres pays. Elles sont déjà utilisée depuis plusieurs années sur des animaux. Au cours de l'hiver 1989 et 1990, les satanistes ont commencé à implanter des micropuces électroniques dans leurs enfants, sous la peau de leur main droite ou de leur front. Le but avoué était d'empêcher les nombreux kidnappings qui ont eu lieu ici et ailleurs, car ça existe, vous le savez. Eh bien, la puce électronique contient des informations concernant l'identité de l'enfant et même son dossier médical. La localisation de l'enfant peut ainsi être rapidement déterminée par satellite en cas de rapt. Diverses organisations spécialisées dans les recherches d'enfants commencent déjà à promouvoir cette technique dans certains États. Certains satanistes de haut rang, qui sont tout récemment convertis à Jésus, ont aussi révélé que ces puces électroniques seront placées dans un proche avenir, à l'intérieur des permis de conduire et des cartes de crédit. La personne transportant de tels permis ou cartes de crédit peut ainsi être localisé à tout moment. Le seul matériau capable d'empêcher ces puces d'être détectées par les divers scanners, eh bien, c'est, écoutez bien, c'est le plomb. Blaye. Le plomb permet aussi de protéger efficacement contre le scanner à infrarouge. Ces scanners peuvent repérer tout être vivant par la chaleur émise par leur corps. Est-ce la raison pour laquelle nous assistons actuellement à cette campagne qui vise à récupérer dans plusieurs pays tout le plomb disponible et à l'interdire l'usage du plomb dans de nombreux pays? Voyez-vous, ces puces électroniques seront-elles peut-être et certainement la marque de la bête? Je crois qu'il est très possible qu'elles le soient. Un être humain porteur d'une telle puce électronique ne peut se cacher absolument nulle part au monde, en raison de la couverture par satellite, même si vous allez dans la forêt vierge. Voyez, donc, impossible de nous cacher. La science et la technologie ont tellement progressé que le monde entier peut être photographié et cartographié avec une résolution de quelques centimètres, ou moins encore. Avec l'évolution rapide vers une société qui est entièrement sans argent liquide, attendez bien, qui avait-il de plus logique que l'implantation de tels systèmes d'identification et d'information? Après tout, les cartes de crédit peuvent être facilement perdues ou volées. Or, dès 1990, c'est bientôt. La Nouvelle-Zélande s'est engagée rapidement sur la voie d'une société sans argent liquide. Tout le monde utilisera une carte bancaire ou une carte de crédit. Personne n'utilisera plus du tout l'argent liquide. Plus de billets de 10 francs, de 20 francs, de 10 euros, de 20 euros ou de 50 euros, c'est fini. Les journaux et les revues, aussi bien en Australie que dans de nombreux pays, publient actuellement des articles montrant comment se fera l'évolution de la carte de crédit à l'inscription d'une marque quelconque sur la main ou sur le front. J'ai dit dans la main. Les Écritures s'accomplissent véritablement sous nos yeux. Notez Apocalypse, die Offenbarung, chapitre 13, versets 1 à 17. Écoutez bien. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, il y avait 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde, dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Et c'est ici la persévérance et la foi des saints. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent carrément tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, avaient reçu une marque sur leurs mains, sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 17. Veuillez remarquer que la Bible dit dans le texte original que la marque sera inscrite dans la main ou le front. Ça, c'est dans les textes originaux, et non pas sur la main. Et c'est parce que le Seigneur savait qu'il s'agissait d'un objet implanté, et non pas d'une simple marque à la surface de la peau, qu'on pourrait par exemple enlever. Je pense que l'on peut dire que la marque de la bête est l'ultime implant satanique. Maintenant, nous avons les maladies démoniaques. Oui. Voyez-vous, certaines maladies physiques sont causées par les démons. Parfois, les démons déclenchent simplement un processus chimique qui continue ensuite à se développer. Parfois, ils restent présents et continuent à entretenir eux-mêmes le problème. Il faut savoir que le fait de chasser et d'expulser les démons, cela n'arrêterait pas la maladie physique. Une méthode très courante de discipline exercée par les démons dans le satanisme, cela consiste à provoquer des calculs rénaux. Ils sont extrêmement douloureux à évacuer. Cependant, lorsque un calcul rénal a été formé, le fait de chasser le démon qui l'a formé n'aura aucun effet sur la solution du problème. Il faudra que le calcul soit évacué, à moins que le Seigneur ne choisisse d'intervenir directement et ne dissolve surnaturellement le calcul. Vu à la suite d'incantations, des croix renversées peuvent se former en boursouflure sous la peau de personnes sorties du satanisme. La conséquence d'une telle blessure est en général un problème touchant l'organe situé sous la croix, par exemple les reins ou l'estomac. De telles choses doivent toujours être complètement recouvertes d'huile et il faut aussi commander aux démons de partir au nom de Jésus. N'oubliez pas que les démons peuvent provoquer des maladies et ils ne s'en privent pas. Mais toutes les maladies ne sont pas toujours démoniaques. Nous devons donc nous rappeler que la mort physique, tout comme la mort spirituelle, cela fut la conséquence de la chute d'Adam. Les altérations subies par notre corps physique à cause du péché nous rendent vulnérables à tout un éventail de maladies physiques. Nous devons toujours chercher une cause purement physique à toute maladie. Et aussi, nous devons demander le discernement du Saint-Esprit pour nous alerter s'il y a aussi un élément démoniaque. Toutes les maladies démoniaques entraînent un énorme déficit de protéines. Les défenses naturelles du corps sont rapidement touchées par une déficience en protéines. Les globules blancs du sang, qui combattent les infections, deviennent rapidement incapables de fonctionner normalement en cas de déficience en protéines. J'ai découvert que deux produits peuvent régler efficacement ce problème. Ils sont délivrés sur ordonnance médicale. Mais j'espère que certains médecins chrétiens tiendront compte de cette expérience-là. Par exemple, les deux produits sont appelés en Amérique, et je pense dans d'autres pays, le Vivonex HN et l'huile MCT. Le Vivonex est une préparation contenant des aminoacides purs, c'est-à-dire les éléments de base permettant de construire des protéines. Ce produit est directement absorbé par les muqueuses gastriques et intestinale, sans nécessiter aucune digestion. Donc, il doit être absorbé, on peut dire carrément, par la bouche. On a sauvé la vie de nombreux patients en ayant recours à ces deux remèdes tout simples. On a aussi découvert que les démons aiment beaucoup provoquer de très douloureuses paresthésies. Les paresthésies sont des sensations de brûlure très intenses, quelquefois accompagnées de terribles démangeaisons. En général, la peau garde une apparence tout à fait normale, mais elle est très sensible au toucher et à la douleur, et elle est très vive. Donc dans certains cas, si l'onction d'huile n'arrête pas la douleur, on a découvert que des injections de fortes doses de vitamine B12 sur une période de 7 à 10 jours étaient très efficaces. En général, il faut une injection de 10 mg par jour. Si l'on procède à une onction d'huile, il est donc important que toute la zone douloureuse soit recouverte d'huile. Les saunas sont aussi fréquemment associées à des maladies démoniaques. Pas tout. Si vous avez fréquemment des accès de sauna, vous devez immédiatement demander au Seigneur si la cause n'est pas démoniaque. Les douleurs aux articulations sont encore un autre problème fréquent qui peut être causé par des démons. Parfois l'articulation est enflée ou elle paraît enflammée, mais en général son aspect est parfaitement normal. Et là encore, il est en général suffisant de recouvrir entièrement d'huile l'articulation et de commander aux démons de partir. Cependant, si cela ne suffit pas à résoudre complètement le problème, et à condition qu'il n'y ait pas de problème physique, comme par exemple une infection ou un cartilage défectueux, etc., alors l'utilisation d'un mélange de 90% de DMSO et de 10% d'hydrocortisone, ça s'est révélé d'être très efficace. Le DMSO a finalement été autorisé en 1988, mais seulement sur ordonnance médicale. Utilisez donc une boule de coton et tamponnez délicatement la zone douloureuse 3 ou 4 fois par jour. En général, la douleur et l'inflammation partiront après 1 ou 2 jours. Cette solution ne doit cependant pas être utilisée plus d'une semaine. Je sais que la plupart de ces choses nécessite des ordonnances, mais je les indique dans l'espoir que ceux qui en ont besoin pourront trouver un médecin qui les aidera à obtenir ce qu'il leur faut. Ces médicaments ne procurent aucun effet secondaire et aucun n'est d'un usage dangereux. Un dernier mot à l'intention des médecins. Nous devons comprendre que les démons sont experts en matière de virus et de bactéries. Les infections provoquées par ces derniers sont très difficiles à traiter. L'erreur de traitement, c'est la précipitation d'une dose beaucoup trop faible d'antibiotiques. Parlez à vos patients et priez pour eux. Mais s'il vous semble que votre passion est attaquée par la sorcellerie, traitez son infection de manière agressive. Et dans de tels cas, si vous utilisez des doses de moins de 500 mg pour n'importe quel antibiotique pris par voie orale, cela sera nettement insuffisant pour un adulte. Je prescrirai fréquemment 1 gramme par dose pendant les premiers 24 ou 48 heures. Et l'expérience pratique a démontré qu'il vaut mieux traiter rapidement et efficacement une infection plutôt que de se trouver ensuite devant un cas prolongé et compliqué ou une petite infection larvée, toujours très très ennuyeuse. Assurez-vous toujours de pratiquer une onction d'huile et de commander aux démons présents de partir au nom de Jésus. Les démons s'y entendent très bien pour empêcher le corps de combattre les infections. Je dois encore parler d'un dernier domaine, c'est celui du cancer. Les démons sont habiles à provoquer des cancers. Cependant, on a vu trop de personnes terriblement déçues après qu'on leur ait promis qu'elles seraient guéries du cancer à la suite de leur délivrance. Eh bien, il n'en est pas tout à fait ainsi. Je veux encore souligner le fait que lorsque les démons déclenchent un processus physique tel que le cancer, l'expulsion des démons n'arrêtera pas le cancer. Le processus a déjà été enclenché. Le seul moyen de guérir le cancer est de l'enlever par une opération chirurgicale, si possible, ou par un traitement par les rayons ou la chimiothérapie, bien que peu de traitements par la chimiothérapie soient réellement efficaces, à moins que le Seigneur choisisse de faire un miracle et qu'il guérisse directement le malade. Notre Seigneur est tellement miséricordieux. On a eu le privilège d'assister à de très nombreuses guérisons miraculeuses. Mais le problème des blessures et des malades ou des maladies créées par les démons, cela est un problème très sérieux et qui, je crois, deviendra de plus en plus sérieux à mesure que nous approchons de la fin. La méchanceté, elle s'accroît avec une rapidité étonnante. Oui, vous savez, même dans les écoles, il y a maintenant des choses qu'on n'a jamais connues et qui n'ont jamais eu lieu il y a 20 ans. Jamais. Ça devient de plus en plus terrible. Jésus lui-même a prophétisé que dans les derniers jours, précédant son retour, la méchanceté des hommes sur la terre serait beaucoup pire qu'à toute autre époque et semblable à celle qui régnait au temps de Noé. Vous savez, Dieu, Yahvé l'Éternel, n'a pas détruit par hasard les antédiluviens. Il n'y a que Enoch qui a été sauvé, ensuite Noé. Mais tous, des millions, ont été détruits. Je crois fermement que nous sommes en train de vivre vraiment la dernière époque. Selon des éminents théologiens, ils sont certains que le temps de grâce a déjà touché à sa fin et que la dispensation de jugement a déjà commencé. Donc, nous devons être sur nos gardes, nous devons être plus que jamais vigilants, car les temps qui viennent vont être terribles et ça va se précipiter rapidement. Oui, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Croyez-moi, Satan, il sait très bien que son temps touche à sa fin. Alors, vous pouvez bien comprendre qu'il va faire le maximum, si possible, pour nous tuer tous. Nous devons donc marcher tout près du Seigneur parce que nous entrons dans des temps où seule la direction du Saint-Esprit nous permettra de rester encore en vie. Chers amis, nous terminons ici et nous allons prier ensemble et à partir de l'étude numéro 5, eh bien n'importe quel chrétien, qu'il soit évangélique, baptiste, pentecôtiste ou de tous les autres istes, y compris catholiste, eh bien pourra écouter attentivement et recevoir des bénédictions multiples. Croyez-moi, c'est vrai. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous devons t'implorer chaque jour de notre vie et nos âmes devraient, à chacun des instants que tu nous accordes, s'élever à toi et se recueillir en ta sainte présence. Mais nous sommes ingrats envers toi, ô notre Père Céleste. Nous pensons beaucoup trop à nous-mêmes, aux objets du monde, et bien peu à tes perfections, à tes bienfaits. Nous cherchons sans cesse la paix, le bonheur dans les choses de cette vie, et nous nous éloignons ainsi de toi, en qui seul il réside la vie éternelle. Pour que nous commencions à te chercher, à t'aimer, à te suivre, il faut que ta puissance agisse en nous. Il faut que nos cœurs soient touchés, nos désirs changés, notre conscience salutairement frappée. Ô Dieu, accomplis en nous cette œuvre de ta miséricorde. Accorde-nous la grâce de te connaître et de nous attacher à toi. Que ton Saint-Esprit éclaire nos âmes afin que nous ayons véritablement la foi. Puissions-nous croire fermement et ne point douter dans nos cœurs. Puissions-nous prier avec confiance et persévérance, sachant que nos prières seront exaucées. Que ton règne vienne dans nos âmes, ô Seigneur et Sauveur, toi Tout-Puissant, afin que nous accomplissions notre tâche ici-bas avec courage et avec joie, et que notre salut soit assuré dans l'éternité. Donne-nous un esprit de charité, de douceur, une profonde soumission à ta volonté, des désirs purs et conformes en tout à ta sainte loi. Bénis nos parents, nos amis, notre pays. Bénis tous ceux qui souffrent et soutiens-les. Exauce-nous, Seigneur, au saint nom du Sauveur, et que tu nous as donné, que tu nous as donné dans ton grand amour. Amen. Merci, Seigneur. Et chers amis, vous savez, je dois vous dire que Dieu est bon. Figurez-vous, évidemment, quand même, à 90 ans, on ne peut pas parler clairement, automatiquement. Ce n'est pas évident. Et moi non plus. J'avais la voix craquée, on peut dire inaudible, il y a encore 2 heures. J'ai prié. J'ai demandé au Seigneur d'intervenir. Oh, ne pensez pas que je mérite quelque chose, mais pas du tout. Dieu ne regarde pas comme nous à certains critères. Non, non, non. Tout un chacun a le droit de prier et tout un chacun, le Seigneur répond, exauce pour tout un chacun. Et chers amis, soyons reconnaissants. Et je suis tellement reconnaissant que j'ai pu parler tout du long. J'ai demandé pour que ma voix puisse être assez claire pour être compris. C'est pas évident à 90 ans. Mais le miracle a eu lieu. Et je voudrais vous demander, nous devrions tous, vous et moi, prier les uns pour les autres, c'est notre devoir. C'est notre devoir de chrétien. Eh bien, chers amis, vous le savez, Dieu vous aime. Et je vous aime de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace de mes bras. On peut dire avec toute la compassion de mon amour, de ma compréhension, de ma gentillesse, je vous embrasse tous. Soyez bénis. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série, et là, ce sera différent. Tout un chacun pourra en profiter, pourra écouter sans se poser trop de questions. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est farfelu? Non. À partir de demain, je vous promets que tout un chacun pourra vérifier absolument chaque verset dans sa Bible. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime. Au revoir.